Bonjour à toutes et à tous, René avec vous, à l'antenne de Radio Campus, 106,6 FM, www.campuslille.com, pour, comme chaque mercredi, entre 16h et 16h30, le magazine Campus Lille Info, magazine donc consacré à l'information de ce qui se passe sur les universités de Lille. Et aujourd'hui, nous allons parler développement durable, nous allons parler du campus, ou des campus peut-être, même sans voiture ou sans trop de voitures, minimiser un peu tout ce qui fait que nous soyons actuellement très souvent, de plus en plus souvent pollués. J'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Rousseau, donc vice-présidente Campus Durable de cette université Lille 1. Bonjour Sandrine Rousseau.
Bonjour.
Alors, donc, on a été perturbé très souvent ces derniers temps par des pollutions régulière, avec des pics énormes. Première question, ces pics-là, ils sont dosés jusque 10. Qu'est-ce qui se passe après 10?
Après 10, on ne mesure pas, et dans le Nord-Pas-de-Calais, et particulièrement à Lille, et particulièrement sur ce campus, lors du précédent épisode de pollution, on a dépassé le niveau 10 et les indicateurs les pires pendant plusieurs jours.
Donc effectivement, avec des dommages possibles sur la santé.
C'est des dommages certains, même parce que maintenant les études épidémiologiques sont assez claires sur le fait qu'il y a à peu près 42 000 morts par an de la pollution. Rien que sur la métropole lilloise, il y a une étude qui dit qu'en 2015, donc là, il y a deux ans, il y a eu 1600 morts liées uniquement à la pollution. Et ça, c'est des crises d'asthme qui sont plus graves qu'elles ne devraient l'être. C'est des maladies cardiovasculaires, c'est des cancers du poumon, c'est des choses comme ça. Et donc, ce n'est pas un sujet avec lequel on plaisante.
Alors, c'est vrai que nous sommes alertés à chaque fois qu'il y a un pic de pollution par les services de la préfecture. Nous avons aussi chaque matin sur Radio Campus, durant la matinale, de 7h à 8h, un journal dans lequel on présente, dans les infos pratiques, le niveau du jour, on peut dire. C'est quelque chose d'assez nouveau cette année. On a pris cette initiative parce que ça commence à devenir plus qu'important.
Oui, on est prévenu, mais en fait, on n'est pas tant prévenu que ça. Et c'est un des problèmes, d'ailleurs, de ces épisodes de pollution, parce que normalement, durant les épisodes de pollution, on ne doit pas faire de sport, par exemple. Mm-hmm. Or, les services de sport fonctionnent encore pendant ces épisodes-là. C'est le préfet, normalement, qui doit interdire ces choses-là. Sauf que pour l'instant, le sport est interdit uniquement pour les enfants et les personnes âgées. Et il va falloir qu'on réfléchisse sur le campus, sur notre campus. Pour préserver la santé des personnes qui y travaillent et qui y étudient, si on ne peut pas arrêter les activités sportives les jours des plus grands pics de pollution, ou au moins les faire en salle, ou au moins limiter les efforts ce jour-là, parce que plus vous êtes essoufflé et plus vous respirez de cet air malsain.
Alors c'est vrai que les causes de cette pollution atmosphérique sont vraiment nombreuses. On ne pourrait pas quantifier en termes de pourcentage la responsabilité des agriculteurs, des routiers et des gens qui prennent leur voiture ou d'autres sources de nuisances comme les usines. Il y en a de moins en moins dans la région, mais enfin il y en a encore quelques-unes. Néanmoins, chacun se sent donc devrait se sentir co-responsable de cette situation et donc agir en conséquence.
Voilà, c'est un peu l'objet de la politique que l'on essaye de mettre en place sur le campus, de dire mais cette affaire-là, c'est une affaire dont nous sommes tous entièrement responsables, puisque par nos comportements quotidiens, en fait, on augmente ou on diminue le niveau de pollution. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un campus, le campus de l'université de Lille 1, qui est un campus fait pour la voiture, qui a été construit dans les années 60-70, et c'était la période reine pour la voiture, où la voiture avait toute la place. On a un nombre de places de parking qui est beaucoup trop important, même en regard des usages aujourd'hui. C'est-à-dire, si on ne diminue pas le nombre de voitures, ce qui est... donc si on garde le même niveau de pollution, on a aujourd'hui des places de parking qui sont sous-utilisées. On utilise en moyenne 2/3 des places de parking. Et en plus, si on dit on réduit la place de la voiture, ça veut dire qu'il faut se réapproprier des parkings, parce que ce qu'on ne mesure pas, parce qu'on est très habitué à notre campus, plus comme ça. C'est qu'en fait, la superficie au sol de ces parkings est énorme. Et donc, ça fait vraiment beaucoup de place, en fait, si on commence à utiliser les parkings sur d'autres usages. Et donc voilà, il faut réfléchir pour que tout le monde puisse venir sur le campus. Il n'est pas question de gêner les gens pour venir sur le campus, mais venir au pied du bâtiment en voiture, je pense qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de faire ça dans le niveau de pollution dans lequel nous sommes, dans le niveau de danger pour la santé que ça représente. Et puis ensuite, même pour le porte-monnaie, hein, parce qu'une voiture... moi, on me dit toujours, mais c'est les pauvres qui utilisent des voitures. Sauf qu'une voiture, ça coûte très cher, ça coûte 3300 euros par an. Les transports en commun, ça coûte moins cher. Les parkings relais, c'est gratuit. Donc, il y a des moyens de faire en sorte qu'en plus, ce soit gratuit pour le porte-monnaie.
C'est vrai que sur ce campus, il existe des parkings avec un système qui permet à l'herbe de pousser. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc, ça fait quand même des zones, même si c'est occupé qu'aux deux tiers. Le tiers qui reste, enfin, c'est pas toujours le même tiers, hein, mais peut être aussi mis en végétation.
Oui, c'est. Mais là, on va commencer à réfléchir à. Alors, d'abord par petit nom, mais à reprendre des places de parking non utilisées et à les transformer par exemple en jardin partagé où on pourrait faire pousser des fruits et des légumes qui seraient à disposition pour tout le monde, y compris pour les étudiants. Et donc en fait, sur une place de parking qui n'est manifestement pas du tout utilisée, et ben, au lieu d'avoir du béton, on aurait comme ça des légumes à disposition. Alors c'est plus beau déjà, parce que des jardins en plus avec un paillage osier, c'est assez beau à voir, mais en plus ça fait de la surface que l'on se réapproprie et où on a un usage collectif de cette surface, alors qu'une place de parking qui est inutilisée, si vous faites bien attention, ces places de parking qui ne sont pas utilisées, les piétons n'y vont pas vraiment parce qu'en général ils restent sur le trottoir, donc ils contournent la place de parking, les cyclistes n'y passent pas parce qu'ils n'ont pas de raison, les voitures n'y vont pas, et donc en fait c'est une place qui est complètement gelée et qui n'est pas utilisée pour le bien collectif, donc c'est un problème.
Donc dans ces villes polluées, hein, certaines villes ont fait le choix de rendre gratuit le transport commun pendant les pics de pollution. Est-ce que ça peut être imaginé sur Lille, bien sûr Villeneuve-d'Ascq, les universités lilloises étant particulièrement intéressées par ces problématiques?
Alors la métropole européenne de Lille a mis en place un ticket pollution qui est de 1,60€ pour toute la journée, mais nous souhaitons aller plus loin sur ce sujet. C'est pour ça que la semaine prochaine, donc les 8 et 9 mars, on distribue par exemple des vélos gratuitement à tous les personnels du campus qui en ont fait la demande. Et ces vélos, on subventionne en fait la location et donc ils sont à disposition totalement gratuitement pour tous les usages que les personnes souhaitent en avoir jusqu'au mois de juillet. Et l'idée est de dire, bah voilà, on vous prête un vélo jusqu'au mois de juillet, regardez si finalement c'est peut-être pas plus pratique de venir en vélo plutôt qu'en métro, et c'est complètement gratuit pour vous. De même que là, j'ai appris, alors là il y a quelques heures, donc c'est un scoop, qu'on avait gagné, enfin on avait été retenu dans le cadre d'un appel à projet qui avait été lancé par la SNCF et la région des Hauts-de-France pour tester pendant un mois le train gratuitement. Donc les personnels qui n'ont pas d'abonnement TER et qui peuvent prendre un train à proximité de chez eux, eh bien pendant un mois pourront tester complètement gratuitement le train. Ce que je veux dire par là, c'est que on fait vraiment des efforts pour essayer d'autres modes de transport et que le coût ne soit pas du tout une barrière pour les personnes. Après, on fera le bilan à la fin de cette année universitaire pour voir dans quelle mesure ça a changé les comportements ou pas. Est-ce que ça a été efficace? Est-ce que certains y ont vu un avantage ou pas? Mais ça, il faudra le voir à la fin.
Alors, moi, je peux témoigner, puisque je prends le train chaque fois que je viens ici, que le train en abonnement, c'est vraiment une solution très intéressante. Le train, c'est assez exceptionnel. En général, il est à l'heure. Hein. Bon, il se peut parfois qu'il y ait des petits déréglages, mais d'une manière globale, on peut dire...
Vous savez qu'un train, c'est finalement plus à l'heure qu'une voiture.
Ben forcément,
parce
c'est pour
qu'une
ça
qu'une voiture, il y a énormément de bouchons.
Bien sûr. Donc, je connais même des gens qui avaient déménagé pour habiter près de l'université, plus près de l'université, qui travaillaient sur l'université et qui étaient dans le Pas-de-Calais. Vous imaginez les bouchons qu'il peut y avoir le matin. On ne peut pas garantir un horaire d'arrivée, quoi.
Tout à fait.
Donc partir à 5 heures du matin pour être sûr d'arriver à 8 heures, c'est peut-être compliqué.
Non, mais c'est ça, quand on voit les horaires de certaines personnes, ce sont des horaires qui posent vraiment question, parce qu'il y a des gens, notamment ceux qui habitent dans le bassin minier et qui utilisent cette fameuse autoroute A1 qui passe par Carvin, là, des fois sont obligés réellement de partir à 7 heures du matin,
oui.
Du coup, ne profitent pas de leur vie de famille avant d'arriver, arrivent après 3 heures de voiture ou 2 heures de voiture, ce qui est quand même une atteinte à leur qualité de vie réelle, quoi. Donc, l'idée aussi d'utiliser davantage les transports en commun, voire d'aller sur du télétravail, parce que pour l'instant, on n'a pas de solution à proposer, mais on commence à réfléchir à offrir du télétravail depuis des centres comme Carvin, par exemple, ou Lens ou d'autres. Si on arrive à faire ça, les gens retrouvent dans leur journée 2 à 3 heures de libre. Mais c'est un luxe incroyable d'avoir 2 heures de plus par jour à vivre.
Mais oui. Donc on imagine tous ceux qui doivent impérativement, alors je pense à notre ami Arnaud qui est dépassé par le temps, la contrainte temps, hein, qui effectivement doit lui avoir une voiture, hein, et même la changer là, prochainement. Donc double contrainte, à la fois de ne pas être sûr d'arriver à l'heure et de devoir la changer parce que malgré tout ça s'use et ça coûte cher.
Oui, c'est ça. Je vous dis, c'est un budget qui est vraiment non négligeable. Alors après, moi, j'ai entendu par exemple des gens qui me disaient, oui, mais je suis obligée de prendre la voiture parce que je vais déposer mon enfant à la crèche le matin et la crèche, la place que j'ai eue, qui m'a été attribuée, elle est à l'autre bout de la ville. Et donc, je peux pas utiliser les transports en commun pour faire ça. Mais je me dis, c'est quand même ballot. C'est moi qui l'ai poussé. Il y a une crèche sur le campus. C'est moi qui ai tout fait pour que ça se passe. Et précisément pour qu'on n'ait pas ces trajets-là à faire. C'est-à-dire que l'intelligence, ce serait de regarder si on peut pas, à la prochaine place qui se libère dans cette crèche sur le campus, mettre un enfant, cet enfant par exemple, sur le campus. Et comme ça, il n'y a plus besoin d'utiliser la voiture. Donc ce qu'il faut aussi travailler, c'est tous les à côté et savoir pourquoi on utilise la voiture. Alors il y en a certains, c'est uniquement pour du confort, mais d'autres, ça ne l'est pas. Alors il y en a qui ont mal aux genoux, il y en a qui ont des problèmes musculaires, de douleurs, de maladies, d'handicap. Et puis il y en a d'autres où, parce qu'ils ont une famille nombreuse, qu'ils ont le petit dernier à aller chercher à un autre endroit et tout ça, c'est pas facile pour eux. Donc il faut qu'on regarde toutes ces contraintes-là. Ceci dit, je pense qu'il y a quand même beaucoup de solutions. Je pense qu'on n'arrivera pas à tout résoudre, mais je pense qu'il y a une partie des trajets en voiture qu'on peut essayer de transformer.
Bon, alors c'est vrai que quand on compte les coûts de la voiture, bien sûr, c'est difficile de faire 100 en général, hein, et qu'il faut intégrer aussi le fait d'avoir la voiture plus les déplacements aussi en abonnement quand nécessaire. Il faut compter l'ensemble. Donc tous ces devoirs,
enfin,
le
moi,
ratio...
Je vais vous dire, je vais vous citer mon cas personnel. C'est que, on arrive quand même à réduire énormément la place de la voiture. On arrive à diminuer le besoin de voiture que l'on a. Moi, je n'utilise que très rarement.
Oui, mais il faut quand même, quand on l'a, amortir les frais aussi.
Oui.
Quoi, hein.
Oui, non, mais de toute façon, après, il y a des frais, c'est évident. Mais là, je pense qu'on atteint des niveaux de pollution. Enfin, j'ai travaillé avec les chercheurs qui travaillent justement sur les particules qui existent dans l'atmosphère, qui m'ont montré les relevés du dernier épisode de pollution. Et ce sont des relevés qui sont quand même... qui sont inquiétants. Enfin, je le dis, c'est pas des relevés qu'on peut juste balayer d'un revers de main en disant, bah oui, de toute façon, c'est plus important que j'écoute la radio dans ma voiture plutôt que ça. Enfin, et là, on travaille justement avec eux pour essayer de développer des capteurs de pollution qui sont individuels, donc qu'on mettrait soit sur des vélos, soit sur des sacs à dos quand on se balade, pour essayer de mesurer un peu à échelle humaine, c'est-à-dire à l'échelle d'un déplacement dans la journée, quelle est la quantité de particules fines qu'un individu absorbe lors d'un épisode de pollution. Parce que aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un indice 10 sur un endroit, sur une métropole par exemple, comme on a eu, c'est géographique. C'est-à-dire que si vous allez là, vous êtes soumis à un indice de pollution de 10. Maintenant, si vous allez là, si vous traversez un boulevard, si à côté de ça, vous allez le long d'une autoroute, et si à la fin, vous rentrez chez vous, peut-être que finalement, vous avez absorbé encore beaucoup plus de particules fines que ce que l'indicateur montre. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à mesurer ça, parce que c'est un enjeu de santé publique majeur.
Est-ce qu'on sait sur le territoire du campus de la Cité scientifique, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus compliqué que d'autres en termes de pollution, ou est-ce que globalement le risque est réparti ?
Alors, on n'a pas des capteurs sur l'ensemble des bâtiments du campus, donc on n'a pas une carte très précise de la pollution bâtiment par bâtiment sur le campus. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que dans la mesure où le campus est cerné par deux autoroutes hein, qui le longent, et que ce sont des autoroutes qui en plus sont assez embouteillées, les niveaux de pollution en général sur le campus sont plutôt plus élevés que sur le reste de la métropole. Et par ailleurs, il s'est déroulé lors du précédent épisode de pollution quelque chose qui, sur le plan de la santé, est problématique. C'est que, alors qu'on était à 10 en niveau de pollution, donc le niveau maximal, eh bien, il y a eu la finale du match de hand avec l'intégralité des voitures qui rentrent dans le grand stade et qui ont donc bouchonné autour du campus. Et là, moi, je vais regarder un peu quel est le niveau de particules fines que l'on a inspiré à ce moment-là, parce que 10 plus une finale de handball, je pense que là, on a atteint des sommets et des sommets. Enfin, aujourd'hui, on se gausse un peu des images de Tokyo ou de des grandes villes chinoise sous des nuages de pollution, mais il faut bien entendre que la France n'est pas exempte de ça, Villeneuve-d'Ascq n'est pas exempte et notre campus ce n'est pas. C'est pour ça qu'on fait aussi une journée sans voiture le 23 mai, pour aussi que les gens se disent bah, et tiens, si, quand je n'utilise pas la voiture, quand je ne peux pas la rentrer sur le campus, est-ce que ça change vraiment ma vie ?
Alors, c'est un test. Hein. Est-ce que vous prévoyez à partir de cette expérience, d'interroger les gens, de oui. leur demander leur avis et de savoir des propositions peut-être par comment ils ont vécu les choses et ce qui peut être amélioré dans leur accueil.
Oui, tout à fait. Et il y aura un retour sur cette journée. Il y aura aussi un retour avec les étudiants parce que les étudiants sont assez demandeurs d'un rééquilibrage de l'espace du campus. Là, on a fait des réunions publiques et des concertations. Ça fait... je dirais 6 mois qu'on en fait de manière assez intensive. Et ce qui ressort vraiment, c'est la répartition de l'espace sur le campus n'est pas juste. Les personnels ont beaucoup de parkings qui sont réservés, ont beaucoup d'espace. Et nous, on doit contourner ces espaces-là. Et donc, on va faire aussi une journée d'études pour essayer de réfléchir aux usages de tous les usagers de ce campus. C'est-à-dire... comment ils perçoivent l'espace, comment ils occupent l'espace, est-ce que l'espace est occupé par tout le monde ou est-ce qu'il est mal réparti, est-ce qu'il y a des zones d'insécurité, est-ce que les femmes y sont moins en sécurité que les hommes. Et donc une journée dédiée, alors ça je suis encore en train de chercher la date, mais une journée dédiée à se dire mais finalement qui occupe ce campus et dans quelle proportion et est-ce que ça pose un problème ou pas.
Donc, on parle là du campus sur la cité scientifique. Est-ce que, entre, je vais dire, pour résumer l'île 1, l'île 2, l'île 3, chaque campus est à peu près à égalité en termes de problématiques ou est-ce qu'il y a des campus où on respire peut-être mieux que d'autres ?
Alors, les campus ne sont pas tout à fait à égalité parce que l'île 3, il y a un très grand parking, mais il n'y en a quasiment qu'un seul. Quoi. Enfin, il y a un immense parking au pied de l'île 3. Et l'île 2, ils sont, pour les personnes qui sont en centre-ville de l'île, là, je ne sais plus quel est le nom de la station, je cherche la porte de Valenciennes, il y a très peu de places de parking. Donc, eux, de toute façon, ont dû changer leur mode de fonctionnement déjà. Et après, le campus Lille 2, c'est aussi le CHR. Et on sait que le CHR, il y a des problématiques très fortes de parking. Donc, de toute façon, on est le campus où il y a presque le plus de problèmes de ce point de vue-là. Les autres sont moins concernés que nous.
C'est vrai que j'ai vu l'information sur justement le CHR ou les personnels, hein, ou encore plus les étudiants ou les élèves infirmiers ou autres, hein, ont beaucoup de mal à trouver des places pour se garer et ont souvent des procès parce qu'ils se garent n'importe comment.
Oui. Mais c'est la politique du CHR et c'est parce que le CHR c'est une énorme usine. Hein. Enfin, il y a énormément de gens qui passent tous les jours là-bas entre les personnels, les usagers. Bon, donc il a fallu réglementer cet accès au parking. C'est encore très libre. Il faut savoir que toutes les universités du nord de l'Europe et même, je dirais, d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, sur tous ces campus-là, il n'y a pas de voiture. dans le centre du campus. Et pourtant, un campus américain, les États-Unis, c'est quand même le pays de la voiture. Et pour autant, il n'y a pas de parking, ou très peu, à l'intérieur des campus. Donc, en plus, on a une forme de retard là-dessus. C'est-à-dire que pour des gens qui arrivent, qui cherchent un projet d'innovation, qui voudraient utiser la recherche pour vraiment développer de nouveaux produits, puis qui arrivent sur un campus où les bâtiments ressemblent aux années 60, où il y a la voiture des années 70, on se dit, c'est pas là que va se faire mon innovation. Donc en plus, il y a une question, au-delà de la pollution, des enjeux de santé, etc., il y a aussi une question d'image extérieure. Et ça, c'est pas complètement négligeable, parce qu'on prétend être une université d'excellence dans le niveau mondial, et les autres universités n'en sont pas là.
Bon, quand même, on peut dire que notre fierté, le Val, c'est quand même un outil fabuleux qui a pu démontrer l'innovation technologique.
Oui, alors ça, c'est assez marrant, parce que le Val, c'est une innovation technologique, c'est un métro fabuleux, c'est tout ce que vous avez dit, et c'est des chercheurs de l'université qui l'ont développé. Donc c'est vraiment un exemple de réussite de la recherche. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'une fois qu'on a eu ce métro, et qu'en plus c'était nous qui l'avions fabriqué, quelque part on ne s'est plus du tout interrogé sur la mobilité. C'est-à-dire que c'est comme si ça suffisait, et on s'est dit, on a le métro, on a deux stations de métro sur notre campus, c'est très bien desservi, on a un très beau métro, maintenant on laisse tomber. Or, un métro ne suffit pas.
Donc ce métro, le Val, comporte deux lignes. On a étendu certaines lignes, on a agrandi les voies, les quais et peut-être même les rames. Est-ce que ça a un effet positif ou pas ?
Alors pour l'instant, on n'a pas élargi les rames. Je crois qu'il y a vraiment un très gros problème pour doubler les rames. Je ne suis pas sûre que... Enfin, j'ai lu en tous les cas dans la presse que la métropole européenne de Lille réfléchissait vraiment à poursuivre ce projet.
Ah ouais,
c'est pas fait. C'est-à-dire que... Non, mais plus que c'est pas fait, c'est qu'ils se demandent vraiment s'ils vont aller jusqu'au bout. Donc moi, je souhaite que ça aille jusqu'au bout, parce que je pense quand même qu'il y a des heures où il y a une surcharge manifeste du métro, particulièrement sur la ligne 1. Mais pour l'instant, ça n'est pas certain.
Alors, pour rappeler, ce métro avait la particularité, en étant automatique, j'avais fait une émission sur ce sujet-là, avec un des ingénieurs qui a contribué à sa réalisation. Et il me disait, un conducteur normal ne peut pas conduire à cette vitesse-là et sur ces cadences-là des rames de métro. Et donc, ce système-là permet de réguler, d'aller plus vite, d'accélérer même dans les endroits où il fait noir, et puis d'éviter tout risque humain, bien sûr, puisque quand on conduit, on peut être fatigué, on peut avoir de mauvais réflexes. Voilà, donc c'était quand même vraiment optimisé, ce métro-là, et il a été, je pense, vendu aussi dans le monde entier. On en a exporté, enfin, quand je dis « on », il a été exporté, et puis j'allais dire quelque part imité aussi. C'est pas le seul métro maintenant sans conducteur.
À ma connaissance, je crois que c'était le premier métro complètement automatique. Depuis, il a fait des petits, que ce soit ce modèle-là ou des modèles inspirés de celui-ci. Donc oui, ça a été une grande innovation. Le problème, c'est que maintenant, il faut passer à l'étape supérieure, parce qu'au départ... Quand le métro a été construit, le campus était au milieu des champs. Et depuis, l'urbanisation a gagné. Et donc, les usagers de ce métro ont augmenté. Et il faut réfléchir à son augmentation. Mais ce métro était vraiment à la pointe de la technologie, à la pointe de l'innovation quand on l'a fait. Et quand on arrivait sur ce campus avec ce métro, on comprenait qu'on était dans une université qui inventait vraiment le futur. Aujourd'hui, quand on arrive dans cette université, on n'a plus cette impression-là, parce que le métro, y en a d'autres qui sont automatiques, et puis il y a eu d'autres innovations depuis. Et puis, je vous dis, quand on arrive sur le campus, on n'a pas l'impression que c'est une université... De haute technologie, en fait.
Alors, quand on arrive sur le campus, quand on arrive par quatre cantons, on a maintenant un immense parking qui est quand même un petit peu novateur, non, on peut dire, et qui accueille à la fois des gens qui viennent sur l'université, mais aussi beaucoup de gens qui prennent le métro pour aller, on ne sait pas trop où d'ailleurs.
Alors le parking relais de quatre cantons, et ça je le dis vraiment à tous et toutes parce que j'ai été surprise de constater que les personnes qui vivent ou qui travaillent sur le campus ne le savaient pas. Mais le parking quatre cantons, c'est un parking qui est complètement gratuit, qui est surveillé et qui est donc sécurisé. Et on peut l'utiliser. Quand on travaille sur le campus, on peut utiliser ce parking-là. Et quand je discute avec la MEL, avec la métropole européenne de Lille, ils me disent, bah oui, mais vous n'utilisez déjà pas les parkings qui existent. Et c'est vrai que ce parking quatre cantons, il a une haute qualité de service, il est juste à côté d'une station de métro, donc il permet en plus d'aller après en ville très facilement, et pour autant il est sous-utilisé, donc oui, ça fait partie de ces choses qu'il faut qu'on rende, enfin il faut que les gens sachent que ça existe, parce que pour l'instant ce n'est pas certain.
Alors, une proposition de Radio Campus, hein, ce serait de faire une journée portes ouvertes, bien que ce
parking
soit gratuit.
Mais c'est vrai, ceci dit, pour la journée sans voiture le 23, on peut imaginer ça, oui, on peut imaginer faire un tour des parkings gratuits, c'est vrai, c'est une bonne idée.
Voilà,
ça fait la deuxième bonne idée que vous me donnez. Je reviendrai.
on refera le point sur les évolutions donc, de ces propositions.
Mais sur les capteurs de pollution, c'est issu de la dernière
Absolument,
émission où on en avait
sûr.
Parlé et du coup j'ai creusé cette histoire et on est en train d'avancer.
N'hésitez pas à revenir, on en trouvera d'autres. Merci beaucoup Sandrine Rousseau,
Merci.
Très bonne journée et à bientôt sur Radio Campus et partout sur cette université où vous veillez, j'allais dire, au grain, d'une certaine manière.
Eh ben, je l'aime cette université, c'est pour ça que j'ai envie de la transformer.
Bah, on l'aime tous.